Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos, il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Il répond aux questions, il est poli, il ne coupe pas la parole. On sait très bien maintenant que c'est tout préparé et que c'est un peu de la manipulation de la part de Monsieur Lelandais.
Nordal Lelandais, bien habillé, bien peigné devant la cour d'assises de Chambéry. Mais l'homme cache son jeu pour l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, tué par l'ancien militaire. Retour sur cette première journée d'audience avec le récit de Marion Dubreuil. Une trousse, des stylos et des autotests, voilà ce qu'on pourra bientôt trouver sur le bureau des collégiens et lycéens de retour en classe aujourd'hui. Une rentrée en demi-jauge et des élèves soulagés après un mois à la maison. Reportage. Dans un peu plus de deux semaines, la rentrée, ce sera celle des restaurateurs, des cafés qui déplieront les chaises de leur terrasse. Une reprise progressive pour ces professionnels éligibles au fonds de solidarité jusqu'à l'été. Dans ce journal, le cafouillage politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après une main tendue vers La République En Marche, Renault Muselier rétropédale. Il n'y aura aucun accord d'appareil, explique finalement le président sortant. Pour y voir plus clair, le décryptage de Louis Dragnel. Et puis du football et le mollet de Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions à 24 heures du match retour face à Manchester City. L'attaquant parisien, blessé, n'est pas certain de pouvoir jouer cette demi-finale de Ligue des Champions qui s'annonce déjà compliquée. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Jean-Virgile Krantz. Le président du groupement national des chaînes hôtelières nous détaillera les conditions de réouverture des restaurants. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo avec un temps qui change demain. Une perturbation pluvieuse touchera toute la moitié nord du pays. Dans le sud, forcément, une ambiance plus printanière nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Oui, j'ai tué Arthur Noyer, mais ce n'était pas volontaire. Je n'ai jamais voulu lui donner la mort. Premier jour de procès pour Nordal Lelandais face à la cour d'assises de Chambéry. L'audience s'est terminée il y a une heure. Première confrontation aussi entre l'homme de 38 ans et les parents du caporal Noyer, disparu en avril 2017, quelques mois avant l'enlèvement et la mort de la petite Maëlys. Nordal Lelandais, un homme aux deux visages pour maître Bernard Boulou, l'avocat de la famille Noyer.
Il répond aux questions, il est poli, il ne coupe pas la parole. Voilà, c'est exactement le propre du manipulateur. D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'histoire de l'aumônier. Tout le monde a cru dans un premier temps que c'était une démarche personnelle. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une démarche stimulée par la défense. Donc, on sait très bien maintenant que c'est tout préparé et que c'est un peu de la manipulation de la part de Monsieur Lelandais.
Maître Bernard Boulou, l'avocat des parents d'Arthur Noyer au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Marion Dubreuil, vous avez suivi cette première journée d'audience centrée sur la personnalité du tueur.
Oui, Nordal Lelandais a montré une image polissée à l'audience. Chemise bleue cintrée, pantalon droit, barbe bien taillée, il aime s'apprêter, plaire. Aux antipodes des faits qui lui sont reprochés, bien loin aussi de la boule puante prête à exploser, selon l'expression d'un ancien chef à l'armée. Si l'accusé se répand sur ses relations amoureuses, sexuelles, son parcours professionnel, il maintient sa version des faits au strict minimum. Il a bien tué Arthur Noyer, mais il n'a jamais voulu lui donner la mort. La famille du caporal a tenté toute la journée d'ouvrir une brèche dans cette ligne de défense en le confrontant à sa victime tout d'abord, en plaçant une grande photo d'Arthur souriant face au box, en cherchant à le faire parler par l'intermédiaire de sa mère, de sa sœur, de son aumônier. L'autre, comme les parents d'Arthur, surnomme Nordal Lelandais, s'est contenté de leur présenter des excuses. Mais les parents d'Arthur, ils demandent juste la vérité, a expliqué leur avocat. Et alors, seulement, ils pourront vous appeler Monsieur Lelandais.
Le récit de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Le procès doit durer une dizaine de jours. Nordal Lelandais qui sera devant la cour d'assises de l'Isère l'année prochaine, cette fois pour le meurtre de la petite Maëlys.
Europe Soir, le 22-22-30, Romain Oquet.
À partir d'aujourd'hui, on peut donc aller voir si l'herbe est plus verte au-delà des 10 km. Première étape du déconfinement avec la levée des restrictions de circulation et le retour en classe des collégiens et lycéens, une rentrée et des cours en demi-jauge. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a aussi confirmé que le gouvernement compte beaucoup sur les autotests pour limiter les contaminations. Il était l'invité de Julien Bugier tout à l'heure sur Europe 1.
Pour les adultes, ils sont déjà disponibles, hein, c'est-à-dire ils sont arrivés à l'école primaire la semaine dernière. Ils sont en train d'arriver dans les collèges et les lycées pour les adultes. Hein, ça fait déjà 8 millions de tests que nous livrons cette semaine à cette fin. Et puis ensuite, la semaine prochaine, les lycéens sont concernés avec un test par semaine qu'ils se feront eux-mêmes, mais sous la supervision, s'agissant des lycéens, sous la supervision des personnels dédiés. Peut-être que dans quelques semaines, On leur proposera de le faire à la maison, mais pour l'instant, oui, ça se passe dans l'établissement. Vous avez en amont de tout ça une autorisation des parents.
S'ils disent non, il n'y a pas de test.
S'ils disent non, il n'y a pas de test. Non. Alors, on espère
on peut refuser les autotests.
On a le droit de refuser les autotests. Je ne le souhaite pas, évidemment,
oui,
mais c'est juridiquement
ainsi. Oui,
chacun
joue le jeu. Cette question, Jean-Michel Blanquer, des autotests est très importante. Pourquoi avoir tant attendu pour les mettre en place dans les écoles? J'ai vu que les Britanniques l'avaient fait dès le 8 mars.
Alors, d'abord, il y avait des enjeux de validation scientifique. Et puis, rappelons que nous sommes le pays qui teste le plus en Europe et les autotests viennent s'ajouter.
Oui.
Aux tests antigéniques.
C'est sûr, ça, on est vraiment le pays qui teste le plus en Europe.
Oui, et en plus, la France, vous le savez, teste gratuitement, ce qui est assez exceptionnel.
Jean-Michel Blanquer, invité du 18-20 d'Europe 1, une rentrée sous contrainte donc, mais une rentrée quand même. Et après un mois à la maison, c'est mieux que rien pour les collégiens parisiens rencontrés par Laura Taouchanov.
On est très loin de l'ambiance habituelle à la sortie de ce collège parisien. C'est très calme. Seule une partie des élèves ont fait leur rentrée ce matin, mais qu'importe, Marion est ravie de retrouver quelques-uns de ses amis.
J'aime bien travailler à la maison, mais en même temps, j'avais envie de revoir mes amis. Et donc voilà. Même si on est séparés en groupe, maintenant, c'est quand même mieux.
Au-delà du plaisir de se revoir en chair et en os, c'est aussi le moment de reprendre sérieusement le programme, explique Baptiste, un élève de 3e.
On a le brevet à la fin de l'année. Et dans certaines matières, on sait qu'on va finir le programme, mais après, dans certaines... On ne sait pas et on est content de revenir pour pouvoir réviser et travailler. C'est sûr qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps.
Et pour permettre ce retour des 4e et 3e en demi-jauge, Colette Chiche, la principale du collège, a dû réorganiser tous les emplois du temps quasiment sur mesure.
Nous avons découpé la semaine de telle manière à ce que tous les élèves aient cours, soit un jour sur deux, soit deux jours un jour. Ce qui fait que ça nous a demandé à constituer des emplois du temps quasiment pour chaque élève qui ont besoin de pouvoir travailler sereinement comme auparavant.
La direction encourage aussi les élèves qui le peuvent à déjeuner chez eux pour limiter au maximum le nombre de personnes à la cantine.
Le reportage de Laura Taouchanov, une rentrée tout de même perturbée dans une centaine de lycées en France. Les élèves ont bloqué l'entrée des établissements à l'appel de l'UNL. Le syndicat lycéen réclame l'attribution du baccalauréat sur la base du contrôle continu et l'annulation du grand oral. Sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer se disait ouvert à de nouveaux aménagements. Les collégiens et lycéens, justement, seront-ils bientôt vaccinés? C'est l'un des chantiers de l'Agence européenne du médicament. Elle a commencé aujourd'hui l'évaluation du vaccin Pfizer-BioNTech pour des jeunes de 12 à 15 ans. Les résultats sont attendus en juin. En France, près de 16 millions d'adultes ont déjà reçu une première dose de vaccin. 30 millions, le double d'ici la mi-juin. C'est l'objectif fixé par le gouvernement, grâce notamment aux vaccinodromes qui fleurissent sur le territoire. Aujourd'hui, celui de la Défense Arena, la plus grande salle d'Europe, a ouvert ses portes dans les Hauts-de-Seine. Cette stratégie vaccinale, justement, on en parle demain avec Olivier Véran, invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15. Le quoi qu'il en coûte, toujours d'actualité pour les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux affaiblis par la crise, mais qui vont bientôt reprendre, au moins partiellement, à partir du 19 mai. Carole Ferry, le ministre de l'économie, a tenu à rassurer tous ceux qui s'inquiétaient d'une diminution des aides.
Oui, la fin des aides sera progressive. Bruno Le Maire l'a encore confirmé cet après-midi lors d'une réunion avec le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'accès au fonds de solidarité va même être assoupli. Actuellement, il faut avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires pour être indemnisé. Dès le mois de juin, il pourra y avoir des aides, quelle que soit la perte de ce chiffre d'affaires. L'idée, c'est d'inciter tout le monde à relancer son activité pour éviter qu'un bar, par exemple, préfère rester fermé, car les aides seraient plus intéressantes que l'ouverture de sa terrasse. Il reste maintenant à négocier le montant de cette indemnisation à partir du mois de juin et le rythme de sa dégressivité. Le gouvernement veut que les aides d'État disparaissent d'ici le mois de septembre, mais la profession craint que la reprise ne soit pas la même pour tout le monde. Il y a une grosse inquiétude, notamment concernant Paris et les grandes villes qui n'ont quasiment plus de touristes. L'hôtellerie-restauration demande donc que les coupes ne soient pas trop sèches.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. La réouverture des restaurants, justement, on en parle à 22h20 dans l'interview éco d'Emmanuel Duteil.
Europe 1. Roman Hockey.
22h09, la suite du journal avec ce rétro-pédalage embarrassé de Renaud Muselier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de la région PACA a mis un sacré bazar au sein de son parti, Les Républicains. En décidant de s'allier avec La République En Marche aux prochaines régionales, il s'est attiré les foudres des ténors LR qui lui ont retiré son investiture. Un séisme politique qui a obligé Renaud Muselier à s'expliquer cet après-midi. Le président sortant a précisé les contours de sa liste aux élections régionales.
Notre région d'abord. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. Je le répète, Personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique. L'investiture, je ne l'ai jamais demandé. J'ai demandé le soutien de ma famille politique. Et donc, je redemanderai le soutien de ma famille politique, conformément au statut que je connais parfaitement. Mais je ne veux pas d'accord d'appareil, et je veux mener cette campagne, et nous la mènerons avec l'esprit le plus large possible.
Le soutien, c'est-à-dire pas de candidat en face?
Je ne sais pas qui a pu avoir une idée pareille.
Ça vous fait peur, une liste LR, en face à vous?
Souvent, on me pose la question de savoir si j'ai peur. C'est mal me connaître. Je n'ai pas peur de grand-chose.
Renaud Muselier au micro de Frédéric Michel pour Europe 1. Après donc avoir tendu la main à La République En Marche, la tête de la région PACA ne veut donc pas de membres de la majorité présidentielle sur sa liste, on vient de l'entendre. Louis Dragnel, on a un peu de mal à comprendre.
C'est vrai que cette bouillabaisse politique a un goût bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, le président de la région sortant, Renaud Muselier, avait l'intention de composer lui-même sa liste sans faire de bruit et sans être vu. En clair, qu'on lui fiche la paix. Et puis, deux éléments ont perturbé la préparation de cette tambouille. Premièrement, face à un Rassemblement national très fort, eh bien, Renaud Muselier a craint que les Républicains puissent perdre la région. Deuxièmement, Emmanuel Macron, obsédé par la reconfiguration politique du pays, passant par un affaiblissement de la droite, eh bien, le chef de l'État a tout fait pour qu'un accord se fasse localement entre les Républicains et La République En Marche. Alors demain aura lieu une grande explication à la Commission nationale d'investiture des Républicains, présidée par Éric Ciotti, totalement opposé à l'idée d'un accord avec Emmanuel Macron. Donc demain, Renaud Muselier sera présent à cette réunion à double titre. D'abord pour expliquer ce choix très critiqué par son parti qui lui a retiré son investiture, mais aussi, et ça fait jaser dans les couloirs du parti, parce que les statuts de la Commission d'investiture stipulent que Muselier est le représentant de Christian Jacob, le président du mouvement. Pour le député Olivier Marleix, l'enjeu, c'est qu'Emmanuel Macron comprenne que tout le monde n'est pas à vendre. Et de conclure, il y a une bonne nouvelle. Si Emmanuel Macron fait ça, c'est parce qu'il a peur d'être battu en 2022.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Les Républicains qui peuvent toujours compter sur une autre tête d'affiche, cette fois dans le Grand Est. Jean Rottner, président sortant, a officialisé cet après-midi sa candidature aux prochaines élections. 22h12, Kylian Mbappé boite et Paris tremble. Demi-finale retour de Ligue des Champions demain à 21h. L'attaquant souffre d'une contracture au mollet droit. Ce soir, il s'est entraîné à l'écart du groupe sur la pelouse de Manchester City. Alors match ou pas, son entraîneur Mauricio Pochettino prendra sa décision demain. Le PSG qui aura bien besoin de toutes ses stars après une défaite 2-1 à domicile la semaine dernière. Demain soir, face aux Citizens, Marco Verratti s'attend à un match compliqué.
Priez Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est normal, on n'est pas en équipe des aliens. C'est sûr qu'on va souffrir. On joue en Champions League. Aussi, eux, ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Il faut rester lucide, il faut rester calme parce qu'on va avoir notre opportunité. Et je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain. Ça passe pour des petits détails, c'est à nous de jouer aussi avec notre style demain.
Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, au micro Europe 1 de Julien Froment. Manchester City-PSG, c'est demain donc à 21h. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h. Grande soirée aussi en perspective pour le 15 de France. Les Bleus de Fabien Galthié affronteront l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande en novembre. Avis aux amateurs de sensations fortes. Vous pourrez acheter vos billets à partir du mois de juin pour, on l'espère tous d'ici là, une place en gradin dans un vrai stade. 22h13, la météo, rien de réjouissant Anissa Haddadi puisque le ciel va s'assombrir demain.
Oui, c'est à cause d'une perturbation romane qui arrive cette nuit par les côtes de la Manche. Alors demain matin, nous aurons sur la moitié nord du pays, des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est en passant par le Poitou-Charentes et la région parisienne, de la pluie pour toutes les régions, de la Bretagne aux Hauts-de-France tout le long des côtes de la Manche. Là, nous avons un ciel qui alterne entre averses et éclaircies. Et puis un petit peu plus au sud, de la Gironde aux Alpes du Nord en passant par le nord du Massif central. Là, le temps reste sec, mais le ciel sera quand même très couvert. Les pluies arrivent dans l'après-midi. Et puis dans le sud, des Landes à la Côte d'Azur en passant par la vallée du Rhône, nous avons toujours un soleil qui résiste bien. C'est vrai que l'ambiance est plus printanière sur la moitié sud que sur la moitié nord. Et puis dans l'après-midi, attention, le vent qui soufflait sur les côtes de la Manche va s'engouffrer dans les terres et va concerner toutes les régions de la moitié nord avec des rafales jusqu'à 70 km/h. température 6 à 10 degrés. Demain matin, sur l'ensemble du pays, nous aurons un petit peu plus de fraîcheur et des gelées matinales sur le Massif central et les Alpes. Dans l'après-midi, comptez 11 à 17 degrés sur la moitié nord, 11 à Langres, 14 à Lille et 17 pour Paris. Jusqu'à 23 degrés dans le sud, là il fait bien plus doux avec 19 pour Bastia, 20 à Montpellier, 22 à Nîmes et 23 à Carcassonne.
Des prévisions signées Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Jean-Virgile Krantz, le président du groupement national des chaînes hôtelières, a rencontré le ministre de l'économie cet après-midi. Il nous détaillera les conditions de réouverture des restaurants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Romain Oquet.
Et à 22h16, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier, Wall Street commence fermement la semaine dans un marché calme.
Oui, bonsoir Romain, oui, c'est très calme hein, ce soir le marché américain. Coupé en deux toujours, un marché à deux vitesses, un Dow Jones qui monte quand même de 0,7%, 34 114 points, mais un Nasdaq qui recule, l'indice des valeurs de technologie perd 0,48%, 13 895 points. Après ces records historiques de la semaine passée, on souffle donc. Ce sont les valeurs de consommation qui montent ce soir. Walmart, le distributeur, plus 1,6%, 142,12$. Costco, plus 1,9%, 379$. eBay gagne plus de 4%. 4,2% exactement, 58,15$. En revanche, les valeurs de technologie reculent assez nettement pour Amazon, moins 2,3%, pour Facebook, moins 1%. Tesla perd même 3,5%. Tesla revient en arrière sur des inquiétudes en Chine, 685$. Intel perd 0,4%. Intel s'inquiète de la pénurie de puces électroniques qui ne sera pas résolue avant plusieurs années, selon la direction d'Intel. En baisse donc de 0,4% ce soir. Le pétrole, en revanche, est plus ferme. Il monte encore d'1,6%, 64,45$ le baril WTI. Dans l'espoir d'une reprise de la croissance mondiale au deuxième semestre, ça donne Exxon en hausse de 2,8% ce soir, 58,82$ pour le géant pétrolier. Et puis l'euro campe au-dessus des 1,20. Il est à 1,2065 face au dollar.
Didier, la bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,6%, de retour au-dessus des 6300 points sur le CAC 40.
Oui, ça se passe bien, plus 0,61% exactement, 6307 points. Le CAC 40 poursuit donc son parcours dans le vert avec un gain de près de 15% quand même depuis le 1er janvier. En 4 mois, les valeurs les plus sensibles à la perspective d'un déconfinement progressif remontent, comme par exemple General Events, plus 8,5%. General Events qui évolue dans le secteur de l'événementiel. La routière Colas aussi monte de 2%, avec du côté des foncières Icad qui prend aussi 2%. Et puis des valeurs qui avaient beaucoup baissé se reprennent un petit peu, à l'image dans les transports du groupe Air France KLM qui reprend un petit peu de hauteur, plus 1,4% à 4,70€.
L'exception du jour, ce sont les valeurs pharmaceutiques qui ont marqué une pause ce lundi après leur progression des dernières semaines.
Oui, elles avaient beaucoup progressé ces dernières semaines. On redescend d'un cran avec la perspective d'un déconfinement progressif en Europe. On a des titres comme Valneva qui travaille sur son propre vaccin contre la Covid. Valneva repère 5%. DBV recule de 5,5%. On a aussi Sanofi qui cède 0,7% ce soir, 86,69€. Le dividende sera mis en paiement le 7 mai à hauteur de 3,20€ par action. Donc Sanofi en repli de 0,7% ce soir. Les autres places financières en Europe sont à la hausse avec le DAX à Francfort plus 0,6%, Madrid plus 0,9%, Amsterdam plus 0,6%, Londres plus 0,5%. Tout le monde donc, et le CAC 40 en hausse de 0,61%, 6307 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet, Didier Hamot de Boursier.com. 22h20 sur Europe 1, l'heure de l'interview écho avec vous, Emmanuel Duteil, bonsoir.
Bonsoir Jean-Virgile Krantz.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupement national des chaînes hôtelières et vous étiez cet après-midi à la réunion à Bercy sur les conditions de réouverture des hôtels, des restaurants. Déjà, première question toute simple. On en sait un peu plus, c'est clair, pour la réouverture ?
La discussion est constructive. On voit que le gouvernement veut avoir une dégressivité sur les accompagnements d'aide qui sont donnés aux entreprises et une dégressivité à la fois en termes de proportion, mais aussi de façon calendaire.
Alors, pour qu'on soit bien concret, pour qu'on comprenne tout, c'est-à-dire que quand vous allez rouvrir les aides, bien évidemment, vont rester en partie, et notamment ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire, le fameux fonds de solidarité, il n'y aura plus besoin de perdre 50% du chiffre d'affaires pour y avoir le droit sur le mois de juin. C'est ça l'évolution ?
Alors aujourd'hui, en effet, les discussions que nous avons eues, et elles ne sont pas terminées, donc nous sommes en cours aujourd'hui, en effet, de négociations, de trouver un accord avec le gouvernement sur à la fois la proportion d'aide qui est donnée et qui serait dégressive au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois. Et là, ont été évoqués donc trois dispositifs, le dispositif du chômage partiel, le dispositif du fonds de solidarité et les éléments liés aux exonérations des charges.
Est-ce que ça suffit pour pouvoir rouvrir correctement ?
Ce que nous avons mis en avant, en tout cas auprès donc des ministres, et en particulier pour Bruno Le Maire, c'est le fait que la difficulté auquel nous sommes exposés, c'est que la France, dans sa globalité, ne va pas rouvrir de la même manière. Pourquoi ? Parce que déjà, au sein de notre filière, nous avons un certain nombre d'activités différentes, hein, entre un bar, un restaurant et un hôtel, la reprise d'activité ne sera pas la même. Et elle ne sera surtout pas la même en fonction aussi de du territoire. Alors typiquement, on a évoqué la situation de Paris, qui est quand même extrêmement difficile, et qui est une ville qui dépend de façon importante sur son activité touristique, à la fois à la clientèle internationale et à la fois à la clientèle événementielle.
Et là-dessus, qu'est-ce qu'on vous répond ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des aides spécifiques pour Paris ?
Écoutez, c'est difficile de territorialiser en fait des éléments d'aide, parce qu'après, il faut rester aussi équitable dans l'approche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en discussion pour trouver les plus justes équilibres. Et point aussi positif, il a été de toute manière déjà acté le fait qu'il y aurait une clause de revoyure fin août pour pouvoir faire déjà un premier bilan, en effet, de cette première phase de reprise qui sera, elle, en effet, une reprise sur une période d'été avec peut-être des spécificités sur certains territoires.
Alors déjà, vous, je rappelle que vous représentez les chaînes hôtelières. Il y a un point intéressant, semble-t-il, vous allez pouvoir rouvrir, alors même si vous n'avez jamais dû fermer, mais en tout cas, vous allez pouvoir rouvrir quasi normalement avec, je crois, une salle de restauration uniquement pour les personnes qui logent dans vos hôtels. Ça vous a été confirmé ?
Alors oui, donc la première phase, en effet, serait réouverture en fait de l'activité restauration pour la clientèle hôtelière, que ce soit la restauration du matin, du midi et du soir, donc ce qui est bien entendu quelque chose de positif. Point aussi important qui a été évoqué aujourd'hui, nous avons questionné donc pour avoir confirmation sur le protocole sanitaire. Il semble aujourd'hui que le gouvernement donc nous confirmerait que on resterait sur le protocole sanitaire renforcé que nous avons acté déjà en début d'année et qui serait ce protocole sanitaire avec des jauges jusque donc à la période du mois de juillet, mais qu'en effet, à partir de cet été, nous n'aurions plus de jauges à appliquer, quelles que soient les activités.
C'est-à-dire que ce qu'on vous a laissé entendre, c'est qu'à partir du mois de juillet, vous pourrez faire également venir des clients de l'extérieur. C'est ça que vous dites, avec une jauge limitée, à peu près similaire à l'été dernier. C'est ça que vous nous dites.
Ah, alors, au niveau de l'hôtellerie, même avant.
Je parlais de la restauration, pour vos salles de restaurant.
Oui, c'est ça. Pour les restaurants, hein, pour ce qui est des restaurants, mais que ce soit un restaurant d'hôtel ou restaurant tout court et bar, il n'y aurait plus de jauge à partir du mois de juillet.
Donc ça, c'est un point extrêmement important. Vous pouvez envisager que cette saison d'été puisse être très bonne. Vous en êtes où, justement, au niveau des réservations ? Vous avez l'impression, là, avec toutes ces annonces, que ça y est, ça commence à prendre dans les zones, bien évidemment, touristiques ?
Écoutez, dans les zones touristiques, nous sommes confiants, voire très confiants, sur le fait que, en effet, nous devrions avoir un bel été, puisque les Français et les Françaises ont envie de revenir dans nos bars, dans nos restaurants, dans nos hôtels, et dans tout type d'ailleurs d'hébergement. On voit que là déjà pour mi-mai, on a pas mal de demandes sur les secteurs donc de destination touristique. Donc on a en effet des indicateurs qui sont plutôt positifs.
Est-ce que vous avez votre personnel qui est là ? Puisqu'on entend beaucoup en ce moment dire que votre profession craint que votre personnel ne souhaite pas revenir tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très compliqué et qu'il y a une vie un peu sympathique sur les moments où vous leur demandez de travailler.
Écoutez, aujourd'hui, en effet, on a identifié que un certain nombre de salariés ont pu quitter la filière, mais on peut le comprendre aussi puisqu'ils l'ont quitté avant tout par un manque de visibilité. C'est-à-dire que quand on vous repousse d'un mois sur l'autre en vous disant « non, on ne peut pas reprendre encore l'activité, on est encore fermé, on a encore des contraintes sanitaires », donc un certain nombre de gens ont pu se tourner vers d'autres métiers. Pour autant, nous savons aujourd'hui qu'on a, si vous voulez, un noyau dur. On a tout cet accompagnement qui a été fait par le chômage partiel qui va permettre de remonter en puissance, si vous voulez, au niveau donc de l'employabilité, au niveau des entreprises. Il est possible, en effet, que sur certaines filières, en particulier sur la filière restauration, il puisse y avoir quelques difficultés rencontrées, parce qu'on estime à environ 100 000 salariés qui auraient quitté, en effet, la filière et qui vont peut-être nous manquer à l'appel cet été.
Eh bien, on va suivre tout cela. Un grand merci, Jean-Virgile Cran. Je rappelle que vous êtes le président du Groupement National des Chaînes Hôtelières. Moi, je vous dis à mercredi, puisque demain soir, bien évidemment, grande soirée de football sur Europe 1 avec le Paris Saint-Germain qui va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil et à demain 13h-14h pour la France Bouge avec Elisabeth Assayag. Émission spéciale en direct de la CCI des Hauts-de-France à Lille autour de la réindustrialisation. Votre invité sera le patron du site de Toyota Onin à côté de Lille. À demain Emmanuel. 22h27, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain.
La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La Libre Antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Olivier Delacroix, appelez dès maintenant le 3921, 50 centimes la minute.
A tout de suite sur Europe 1.
Et à la une de vos quotidiens demain matin, le cafouillage en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Républicains d'un côté, LREM de l'autre et au milieu Renaud Muselier. On vous en parlait dans ce journal et c'est aussi à la une de Libération avec ce dessin de Coco où l'on voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron dévorer le plat des régionales et au milieu Christian Jacob, le chef des Républicains qui se retrouve avec seulement les restes. Le parti de Christian Jacob se retrouve siphonné par Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui investissent le terrain sécuritaire, nous explique le quotidien. Une une également à ce match en PACA auquel que consacre aussi 20 minutes. Droite divergente, la droite qui se retrouve dans l'embarras pour le journal à un an des présidentielles. C'est aussi l'avis de l'opinion qui nous explique que le parti Les Républicains s'interroge sur la constitution d'une autre liste face au président PACA privé de son investiture à cause de cette main tendue à LREM. Entre eux, une solution est-elle trouvable, questionne l'opinion. Justement, ce mardi, les Républicains se réunissent en conseil stratégique afin d'évoquer la situation en PACA. Et l'explication devrait être franche, nous promet le journal. Justement, autre sujet sur le front sanitaire. Les Échos consacrent leur une aux aides aux entreprises. Le plan pour la sortie de crise où l'on voit l'image d'un restaurant comme on les aime en pleine effervescence. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, prévoit une baisse progressive des montants du fonds de solidarité cet été. Puisque restaurateurs et hôteliers s'inquiètent de la dégressivité des aides alors que leur réouverture est annoncée dès le 19 mai pour les terrasses, dès le 9 juin pour l'intérieur des salles. Les conditions d'accès à ces aides seront assouplies pour accompagner la reprise des secteurs les plus fragiles, nous expliquent les Échos. Et pour terminer, le Parisien qui consacre sa une au foot et plus précisément au match demain soir Manchester City qui rencontrera le PSG. Les raisons d'y croire, nous dit le quotidien, puisque les Parisiens ont été battus lors du match aller contre Manchester City. Mais les Parisiens qui peuvent encore rêver et gagner leur place en finale ce soir, à condition, on vous le disait dans le journal, que le mollet de Kylian Mbappé guérisse vite. L'attaquant qui s'est entraîné à l'écart du groupe pour, on l'espère, être en pleine forme demain soir pour le match. Il y aura d'ailleurs une soirée spéciale à suivre sur Europe 1. Pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Roman.
Vous connaissez le numéro 3921. On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Très bien. Et nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash. À tout
à l'heure. Exactement, à tout à l'heure.